question. Mais si l'âme est partout à l'intérieur et à l'extérieur du corps, dans son aura, entre guillemets, comme tu dis, alors où une aura finit-elle et où une autre commence-t-elle? Je peux le voir maintenant pour la première fois, vraiment, en termes physiques. Comment il se peut que les âmes n'aient aucun contour et qu'il est vrai aussi, du point de vue physique, que nous ne faisons tous qu'un? Réponse, bravo. C'est tout ce que je peux dire, bravo. Question. J'ai toujours cru que c'était une vérité métaphysique. Maintenant, je vois que c'est une vérité physique. Putain, merde, la religion est devenue de la science. Réponse. Ne dis pas que je ne te l'ai pas dit. Question. Mais attends, s'il n'existe aucune frontière entre les âmes, cela veut-il dire qu'il n'y a pas d'âme individuelle? Réponse. Eh bien, oui et non. Question. Une réponse qui sied vraiment à Dieu. Réponse. Merci. Question. Mais sérieusement, j'espère une réponse plus claire. Réponse. Hey, accorde-moi une chance. On va tellement vite que ta main te fait mal à force d'écrire. Question. Tu veux dire de griffonner furieusement? Réponse. Oui. Alors, reprenons notre souffle. Tout le monde relaxe. Je vais vous expliquer tout cela. Question. D'accord, vas-y, je suis prêt. Réponse. Tu te souviens de la divine dichotomie? Je t'en ai parlé bien des fois. Question. Oui. Réponse. Eh bien, c'en est une autre. En fait, c'est la plus grande. Question. Je vois. Réponse. Il est important d'apprendre à connaître la divine dichotomie et de la comprendre à fond si on veut vivre avec grâce dans notre univers. Elle soutient qu'il est possible, pour deux vérités apparemment contradictoires, d'exister simultanément dans le même espace. Sur votre planète, actuellement, les gens ont de la difficulté à accepter cette idée. Ils aiment l'ordre et tout ce qui ne cadre pas avec cette image est automatiquement rejeté. Voilà pourquoi, lorsque deux réalités commencent à s'affirmer et semblent se contredire, on suppose immédiatement que l'une d'elles doit être fausse. Il faut beaucoup de maturité pour voir et accepter qu'en fait, elles sont peut-être vraies toutes les deux. Mais dans le domaine de l'absolu, par opposition au domaine du relatif dans lequel tu vis, il est très clair que la seule vérité qui est tout ce qui existe produit parfois un effet qui, lorsqu'on le voit en termes relatifs, ressemble à une contradiction. Cela s'appelle la divine dichotomie, et c'est une partie très réelle de l'expérience humaine. Et comme je l'ai dit, il est quasi impossible de vivre dans la grâce sans accepter cela. On est toujours en train de grogner, de se mettre en colère, de tout démolir, cherchant vainement la justice en tentant ou tentant sincèrement de réconcilier des forces contraires, qui ne peuvent l'être, mais qui, par la nature même de la tension entre elles, produisent exactement l'effet désiré. En fait, le domaine du relatif est structuré par ce genre de tension, comme celle entre le bien et le mal. Dans la réalité ultime, il n'y a ni bien ni mal. Dans le domaine de l'absolu, il n'y a que de l'amour. Mais, dans le domaine du relatif, vous avez créé l'expérience de ce que vous appelez le mal, et vous l'avez fait pour une très bonne raison. Vous vouliez faire l'expérience de l'amour, et non seulement savoir que l'amour est tout ce qui existe, mais vous ne pouvez faire l'expérience d'une chose lorsqu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Ainsi, vous avez créé dans votre réalité, et vous continuez de le faire chaque jour, une polarité du bien et du mal, en utilisant l'un pour expérimenter l'autre. Nous sommes donc ici confrontés à une divine dichotomie, deux vérités apparemment contradictoires qui existent en même temps au même endroit. Précisément, le bien et le mal n'existent pas. Tout ce qui existe est amour. Question. Merci de me l'expliquer. Tu as déjà traité de ce sujet, mais merci de m'aider à mieux comprendre encore la divine dichotomie. Réponse. De rien. Maintenant, comme je l'ai dit, la divine dichotomie, la plus grande, est celle que nous sommes en train d'examiner. Il n'y a qu'un seul être, et par conséquent, une seule âme. Et l'être unique comprend bien des âmes. Voici comment fonctionne cette dichotomie. Tu viens de t'expliquer à toi-même qu'il n'y a aucune séparation entre les âmes. L'âme est l'énergie vitale qui existe à l'intérieur et autour, telle l'aura, de tous les objets physiques. En un sens, c'est ce qui retient en place tous les objets physiques. L'âme de Dieu retient l'univers, l'âme de l'homme retient chaque corps humain individuel. Question. Le corps n'est pas un contenant, une coquille pour l'âme. L'âme est un contenant pour le corps. Réponse, c'est cela. Question. Mais il n'y a pas de frontière, entre guillemets, entre les âmes. Il n'y a aucun endroit où une âme finit et où une autre commence. Ainsi, en réalité, une seule âme retient tous les corps. Réponse, c'est juste. Question. Mais cette âme unique se sent comme une seule bande d'âmes individuelles? Réponse. En effet, c'est ainsi qu'elle se sent. En fait, c'est ainsi que je me sens, et c'est voulu. Question. Peux-tu expliquer comment ça fonctionne? Réponse. Oui. Alors qu'il n'y a pas de séparation véritable entre les âmes, il est vrai que l'étoffe de l'âme unique est rendue manifeste dans la réalité physique à des vitesses différentes, produisant des degrés de densité autres. Question. Des vitesses différentes? Quand la vitesse est-elle arrivée? Réponse. Toute la vie est une vibration. Ce que vous appelez la vie, vous pourriez tout aussi bien l'appeler Dieu, est pure énergie. Cette énergie est toujours en vibration constante. Elle se déplace sous forme d'ondes. Les ondes vibrent à des vitesses différentes, produisant des degrés variables de densité ou de lumière. En retour, cela produit ce que vous appelleriez de multiples effets dans le monde physique. En fait, divers objets physiques. Mais tandis que les objets sont différents et distincts, l'énergie qui les produit est exactement la même. Permets-moi de revenir à l'exemple que tu as utilisé plus tôt, l'air entre ton salon et la salle à manger. C'est là un bon exemple de l'imagerie qui est tout simplement apparue devant toi, une inspiration. Question, devine d'où? Réponse, oui, c'est moi qui te l'ai donné. Alors comme tu disais, il n'y a aucun lieu précis entre les deux endroits physiques où l'air du salon s'arrête et où l'air de la salle à manger commence. Et c'est vrai. Mais il y a vraiment un endroit où l'air du salon devient moins dense, où il se dissipe et devient plus léger, tout comme l'air du salon. Plus on s'éloigne de la salle à manger, moins on sent l'odeur du dîner. Ainsi, l'air de la maison est le même air partout. Il n'y a pas d'air séparé dans la salle à manger, mais cet air donne vraiment l'impression d'être un autre air. Tout d'abord, il ne sent pas la même chose. Parce que l'air a pris des caractéristiques autres, il donne l'impression d'être un air différent. Mais tel n'est pas le cas. C'est le même air apparemment différent. Dans le salon, tu sens le feu de foyer. Dans la salle à manger, tu sens le dîner. Tu peux même aller dans une pièce et dire « Ouf, l'air est lourd. Faisons entrer un peu d'air ici. » Comme s'il n'y avait pas d'air du tout. Et pourtant, il y a là autant d'air qu'il en faut. Ce que tu veux, c'est changer ses caractéristiques. Pour cela, tu fais donc entrer de l'air de l'extérieur. Mais c'est le même air, ça aussi. Il n'y a qu'un seul air qui circule dans tout, à travers tout et autour de tout. Question, c'est super, je saisis tout. J'adore ta façon de m'expliquer l'univers par des moyens que je peux complètement saisir. Réponse, eh bien merci, je fais de mon mieux. Alors, laisse-moi poursuivre. Question, s'il te plaît. Réponse. Comme l'air de ta maison, l'énergie de la vie, ce que nous appellerons l'âme de Dieu, revêt des caractéristiques différentes lorsqu'elle entoure des objets physiques divers. En effet, cette énergie se coagule d'une façon particulière pour former ces objets. À mesure que les particules d'énergie se joignent pour former la matière physique, très concentrées, écrasées, poussées les unes vers les autres, elles commencent à ressembler et même à donner l'impression d'être des unités distinctes. C'est-à-dire qu'elles commencent à avoir l'air séparé, différente de toute autre énergie. Mais tout cela, c'est la même énergie qui se comporte autrement. C'est cet acte même de se comporter différemment qui fait en sorte que ce qui est tout peut se manifester en tant que ce qui est multiple. Comme je l'expliquais dans le tome 1, ce qui est ne pouvait pas faire l'expérience de soi-même en tant que ce qu'il est avant qu'il ne développe cette capacité de se différencier. Ainsi, ce qui est tout s'est séparé en ce qui est ceci et en ce qui est cela. J'essaie ici de simplifier ce raisonnement. Les grumeaux d'énergie qui se sont coagulés en unités distinctes, qui contenaient des êtres physiques, sont ce que vous avez choisi d'appeler des âmes. Ce dont nous parlons ici, ce sont des parties de moi devenues vous tous. D'où la divine dichotomie. Nous ne faisons qu'un, Nous sommes plusieurs. Question. C'est brillant. Réponse. À qui le dis-tu? Je poursuis. Question. Non, arrête ici, ça m'ennuie. Oui, bien sûr, continue. Réponse. D'accord. À mesure que l'énergie se coagule, elle devient, comme je l'ai dit, très concentrée. Mais plus on s'éloigne du point de cette concentration, plus l'énergie se dissipe. L'air s'amincit. L'aura pâlit. L'énergie ne disparaît jamais entièrement, car elle ne le peut pas. C'est l'étoffe dont tout est fait. C'est tout ce qu'il y a. Mais elle peut devenir très très mince, très subtile, presque absente. Par contre, à un autre endroit, comprendre une autre partie de soi-même, elle peut à nouveau se coaguler, une fois de plus se grumeler, pour former ce que vous appelez la matière, et ce qui ressemble à une unité distincte. À présent, les deux unités semblent séparées l'une de l'autre, mais en vérité, aucune séparation n'existe. Voilà en termes très très simples et élémentaires l'explication de ce qui sous-tend tout l'univers physique. Question. Mais comment tout cela peut-il être vrai? Comment puis-je savoir si je n'ai pas inventé tout cela? Réponse. Vos scientifiques découvrent déjà que les briques de toute la vie sont les mêmes. Ils ont apporté des pierres de la Lune et ont découvert de la matière qu'on trouve dans les arbres. Ils dissèquent un arbre et ils découvrent la même matière qu'en toi. Je te dis ceci. Nous sommes tous de la même étoffe. Nous sommes tous de la même énergie, coagulés, comprimés de façon différente pour former des formes autres et de la matière différente. Rien n'a d'importance en soi. C'est-à-dire que rien ne peut, tout seul, devenir matière. Jésus disait « Sans le Père, je ne suis rien ». Le Père de tout est pure pensée. C'est l'énergie de la vie. C'est ce que vous avez choisi d'appeler « amour absolu ». C'est le Dieu et la Déesse, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est le tout en tout, celui qui bouge sans bouger, la source première. C'est ce que tu cherches à comprendre depuis le début des temps, le grand mystère, l'énigme sans fin, la vérité éternelle. Nous ne faisons qu'un, et par conséquent, c'est ce que tu es.